sociale ou d'une sorte d'arrangement institué par l'homme au cours des siècles. Non, son institution est véritablement divine et c'est la raison pour laquelle nous devons le considérer comme saint et même sacré. Ceux qui décident de se marier doivent non seulement envisager les obligations qu'ils ont contractées vis-à-vis d'eux-mêmes et de la société, mais de plus, ils doivent prendre conscience de ce que leur union comporte comme responsabilité vis-à-vis de la volonté de Dieu. Cela vient à dire qu'en se mariant, on doit accepter cette volonté pour guide, de manière à voir cette union approuvée par le Créateur de l'univers. Il faut non seulement remplir les conditions exigées par la loi, mais également satisfaire au désir de Dieu. Quels sont les buts principaux du mariage? Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, nous en trouvons deux. Premièrement, la vie en compagnie. Deuxièmement, la procréation de la race humaine. Dieu dit dans le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le roi de l'univers créa donc la femme pour que le premier homme ne souffre pas de solitude. Sa compagne et son complément, elle correspond à ses besoins et lui apporte ce qui lui manque dans l'existence. L'origine divine du mariage montre bien l'immense amour que Dieu voue aux êtres humains. La seconde raison d'être du mariage est, nous l'avons dit, la procréation de la race. Dieu nous dit toujours le livre de la Genèse, bénit le premier couple et ajouta, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. L'union du mariage comporte, bien sûr, l'immense privilège de créer la vie. Le Seigneur voulait que ceux qui s'unissent puissent avoir des enfants et que cette faculté merveilleuse soit portée précieusement, bien au fond de leur cœur. Trop de jeunes de nos jours se marient avec l'intention arrêtée de ne jamais avoir d'enfants, car ils pensent que cela représenterait une charge accrue du point de vue financier ainsi qu'une responsabilité qu'ils ne veulent pas assumer. Ils passent ainsi à côté d'un des plus grands privilèges que Dieu a accordé au couple. Il est évident que la tâche d'élever un ou plusieurs enfants représente une somme d'efforts, de pensées et de prières parfois considérables. Mais comment peut-on décrire le bonheur et la bénédiction que représente ce petit être, qui est le fruit de l'amour de deux êtres? Ceux qui ne peuvent malheureusement pas avoir d'enfants, eux, mesurent peut-être mieux l'étendue et la profondeur de la joie que peut apporter à un foyer vide, à peut-être un petit être abandonné qu'on adopte et qu'on amène à faire la connaissance de Dieu. Oui, un vrai mariage chrétien ne peut être basé principalement sur l'attirance physique, car on ne fonde pas un foyer en ayant pour unique raison la satisfaction sexuelle. C'est se ramener là au rang de l'animal. Les sexes font partie intégrante de la création et sont l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il ne s'agit pas là ni d'une chose dont on doit avoir honte, ni d'une chose ordinaire. La puissance sexuelle et le désir qu'elle implique ont été donnés par Dieu. Et c'est pourquoi ce sont des choses qui font partie intégrante du mariage. Tout ceci est clairement et normalement exprimé par le Seigneur quand il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » L'Écriture montre donc sans équivoque que la relation sexuelle entre époux est loin d'être quelque chose à considérer comme coupable. Lorsqu'on en fait bon usage, elle sanctifie même l'union dans les liens de l'amour véritable. L'apôtre Paul exhorte les époux en ces termes. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La question sexuelle doit donc être comprise à sa juste valeur et considérée comme devant occuper tout naturellement sa place dans le mariage. Nous ne devons pas élever la question sexuelle au-dessus de son niveau normal, mais il nous faut tout de même réaliser qu'il constitue une partie importante de l'existence du couple. L'aspect purement physique du mariage n'est pas le seul à entrer en ligne de compte quand il s'agit de vivre en parfaite entente, et c'est normal. Il va du devoir des parents d'enseigner clairement à leurs enfants la véritable morale du mariage. Cela fait partie de leur préparation à la vie d'adulte. Et nous devons accepter la pleine responsabilité de répondre, suivant leur stade de croissance, à leur besoin de connaître tous les aspects des principes de la vie. Cette préparation va les aider à assumer plus tard, à leur tour, leur responsabilité dans le mariage. Et ils comprendront mieux à la fois les privilèges et les devoirs de cet état. Voyons ensemble quatre raisons démontrant la véritable nature du mariage. Premièrement, le mariage est une union spirituelle, aussi bien que physique. Car ces liens dépassent la chair de très loin. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et c'est pourquoi il dit en Matthieu chapitre 19 et verset 5, que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ces liens sont établis dans le cœur et dans l'esprit des époux, aussi bien que dans l'attrait physique. Deuxièmement, le mariage est une union exclusive. Mais l'homme s'est souvent éloigné de l'ordre originel de son créateur, qui voulait que l'être humain soit purement monogame. Dans certains pays, ce commandement a été changé à un point tel qu'un homme peut avoir officiellement plusieurs épouses. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le Nouveau Testament, le concept du mariage en revient à ce que l'Éternel avait prévu au début de la création, c'est-à-dire une seule femme jusqu'à ce que le décès de l'un d'eux mette fin à l'union du couple. Personne n'a donc le droit de s'immiscer dans l'intimité existant entre mari et femme. Troisièmement, le mariage doit être permanent et définitif. En commentant la relation existant entre l'ancienne loi de Moïse et le chrétien, Paul utilise précisément le mariage pour exemple. Il déclare ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Nous voyons donc que Dieu a toujours voulu que le mariage lie deux êtres jusqu'à la mort. Les pharisiens abordèrent un jour Jésus et lui demandèrent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cette conversation prouve que le mariage est quelque chose de permanent, qui dure tant que dure la vie. Quatrièmement, le mariage est une union hautement honorable. Ainsi en a décidé l'Éternel dans sa parole. Christ a également toujours enseigné qu'il s'agit là d'un état méritant le respect de tous par sa valeur spirituelle et morale. Il se faut de croire qu'il ne s'agit là que d'une concession faite par Dieu à l'homme à cause de sa faiblesse et de sa luxure, autrement dit, un mal nécessaire, pas du tout. Le mariage fait partie du plan prévu par l'Éternel quand il a créé l'être humain. Il fait partie de tout ce que Dieu avait prévu dès le commencement du monde en ce qui concerne la race humaine. Ce serait également faire fausse route que de penser que le mariage peut prédominer sur le royaume de Dieu. L'Église que Christ a fondée doit passer d'abord, comme l'affirme le Fils de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dit-il. Cela signifie que le mariage, comme toutes les choses terrestres, doit se conformer à la volonté divine et s'entretenir à sa seule lueur. Le respect de ces conditions est garante d'une parfaite union physique, morale et spirituelle, et le mariage devient alors une existence où le meilleur domine et où le pire s'estompe et s'efface. Un bon mariage n'est pas une promesse ou un contact échangé entre deux personnes mais entre trois. Trop souvent, on oublie d'y inviter Christ. Il n'y a pas de place pour lui dans le nouveau foyer. Pourquoi? Parce que nous nous sommes fait une fausse image de lui et que nous avons oublié de suivre ses conseils sur la vie. Il est pourtant, hélas, un second aspect de l'union de deux êtres dont il nous faut parler, et c'est la séparation, le divorce.
Alléluia, alléluia.
Yeah.